on peut regarder un petit peu pourquoi c'est un sujet intéressant dans les ondes de choc, puisqu'il y en a absolument partout. Donc on a deux phénomènes d'ondes de choc qui sont un petit peu en géophysique, encore que j'en ai trouvé pas mal en cherchant, et d'autres dans l'univers. Alors ça, c'est partout. Il y a tout en ondes de choc, parce que les mouvements des astres sont très souvent à des vitesses supersoniques. Les vitesses du son dans le gaz entre les étoiles, c'est 10 km par seconde à peu près, 10-20 km par seconde, et comme tous les objets bougent plus vite que ça, on a très rapidement des ondes de choc. On a aussi la magnétosphère, on a plein de possibilités. Donc je vais essayer de vous donner quelques exemples à droite à gauche avant d'attaquer. Le cours en trois parties. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont les équations qui soutiennent derrière ce qu'est une onde de choc, vraiment la physique qui est derrière. C'est là où il y a des rotationnelles et des divergences, désolé. Le cours suivant, on essaiera de voir comment elles évoluent une fois qu'on les a créées. Et puis le dernier cours, on ira faire peut-être un petit tour dans les processus d'accélération que ça peut donner. Parce que ça, c'est moins géophysique, c'est plus astro, mais c'est très général pour ceux qui, en géophysique, travaillent sur les magnétosphères, que ce soit de la Terre, les biosphères, etc. Il y a plein de chocs dans le vent solaire, il y a plein de chocs dans la magnétosphère terrestre, et ce sont des chocs qui accélèrent des particules. Donc on regardera ce troisième petit volet. Donc le premier volet, c'est donc la physique. Alors il y a deux modes de faire des ondes de choc, soit on laisse la nature faire, soit on les crée. Alors ici, j'ai un exemple de création humaine à des fins de sondage du sous-sol. Donc ça, c'est une création exprès avec des étudiants. J'aimerais bien faire les PP en Suède, ils ont l'air sympas. Où ils ont des détonateurs et puis ils regardent avec des écouteurs à droite à gauche dans le champ, ils essaient de voir. Vous avez un petit schéma qui n'est pas le leur, mais qui résume bien ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils envoient une onde de choc dans le sol, ils se réfléchissent non plus dans le terrain souple, mais sur des rochers en dessous, et ils récupèrent les échos avec les sondes un peu partout, et donc ils s'amusent à faire ça. Là, c'est beaucoup plus professionnel, ce sont des camions qui se promènent correspondant à ce schéma-là, et qui, eux, envoient des ondes de choc sur le sol, et enregistrent les échos en retour pour essayer de voir comment se trouve le sous-sol à des fins de... ça doit être du pétrole qu'ils cherchent, d'après la photo que j'avais prise. Donc,
ce sont vraiment des ondes de choc.
Oui.
Ce ne sont pas des ondes élastiques.
Non. Non, non. Je croyais aussi, mais ce sont des ondes de choc. Au début, c'est vraiment des ondes de choc.
Ah.
C'est ce qu'ils envoient. C'est ce qui est marqué.
Ouais. Mais ce qui est analysé, c'est la partie élastique. Hein.
Après, mais au retour. Ce qu'ils envoient, la détonation au départ, c'est vraiment... une onde de choc. C'est pour ça que j'étais un peu surprise aussi. Mais... par contre, là, la question qui est de se dire, il y a des cratères d'impact. Alors, je fais un test avec un astronaute, on s'amuse en ce moment, un copain. Vous le voyez, le météore cratère, vous le voyez comme une verrue ou vous le voyez en creux? Il faut forcer pour voir le creux. Et vous faites ça parce qu'on a ce débat parce que c'est Jean-François Carver qui racontait que le Grand Canyon vu de la station spatiale, c'est on le voit comme une artère en gonflée, on le voit pas en creux, il faut se forcer. Et moi, du point de vue où je suis là, quand je m'unis, j'ai vu une verrue, et puis en réalisant ce que c'était, le cerveau a fait l'interprétation que c'était un creux. Ça marche souvent en fait avec ces photos. Donc ici, vous avez des météores cratères, et la question qui s'est longtemps posée au 19e siècle, c'était de savoir pourquoi les cratères étaient ronds, alors qu'en fait, il y a des impacts qui sont inclinés, et donc vous devriez avoir quelque chose qui est oblong, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, on reviendra dessus, voilà, vous avez l'impact oblong ici, et donc ce qui se passe, c'est que vous avez une onde de choc créée par l'impact, et cette onde de choc va partir dans le sol, et c'est elle qui va faire la sphéricité de la chose avec l'explication de la NASA. Vous voyez qu'elle est très technique. Et une autre explication que j'ai beaucoup mieux, qui est qu'il y a des tombes sur la Lune. C'est bien connu. Donc ça, c'est ce qu'on va voir un peu. Donc une autre application des ondes de choc dans les sols au niveau terrestre ou au niveau d'autres planètes. Je n'ai pas résisté au fait de vous montrer les dernières images de Pluton qui viennent d'arriver. De cet été, de septembre. Donc là, vous avez Pluton. Ici, vous avez Carbon. Alors, je ne sais pas si on dit Carbon en anglais, mais c'est Charbon ou c'est Charbon en français. Donc, Pluton et Charbon. Et là, un zoom de cette région ici, pardon, qui vous montre qu'effectivement, même dans la glace, les cratères sont bien ronds pour la même raison. Ce sont vraiment ces l'onde de choc qui va partir en sphérique. On va regarder un petit peu comment ça marche. Et troisième exemple, évidemment, ce sont les ondes de choc explosives. Et là, on a une magnifique démonstration qu'une onde part de manière sphérique. Vous avez la plume de ce volcan qui était dans les îles russes, presque avec laquelle ils se battent pour le Japon, avec le Japon. Vous avez la plume qui part, donc on voit qu'elle pousse et qu'elle condense l'air, les cristaux de glace en passant. Vous avez ça peut être une coulée pyroclastique, ça si je me trompe. Et puis vous avez surtout la magnifique onde de choc qui est partie autour, elle est exceptionnelle. Cette photo, si on peut démontrer que ça marche, il n'y a pas plus joli. Donc ça a été pris depuis la station spatiale. Vous l'avez même en film, on voit la vitesse à laquelle passe la station spatiale, c'est fou, puisqu'on tourne autour en vagabonde, c'est très impressionnant. Évidemment, il y a des ondes de choc dans l'univers, et c'est celle sur laquelle on va essayer de modéliser pour deux raisons, c'est un gaz parfait, et il n'y a pas grand-chose autour, donc ça simplifie de beaucoup les équations. Ça, c'est une explosion qui a eu lieu en 1572, c'est ICO, et vous avez une image prise en rayons X. Et je vais revenir dessus parce qu'on voit très bien l'onde de choc à l'avant ici, et puis l'espèce de mousse verdâtre, ce sont les éjectas de la supernova, donc c'est le piston qui sert à motoriser l'onde de choc derrière. Donc ici, en fait, vous voyez des particules, ce sont des électrons qui sont accélérés par l'onde de choc in situ, et donc ça sera le troisième volet. Ces électrons font 100 téraélectronvolts. Centaine à peu près, plus. Et donc, il signale vraiment où est le choc. Alors que le gaz ne signale que ce qui est à l'arrière. Il y a une structure qu'on comprend et qu'on va essayer de voir au cours numéro 2. Donc, le nombre de Mach ici, précédemment, là on était sur des nombres de Mach de 1, 2, 3, 10. Ici, on est sur un nombre de Mach de 10 000. Donc, on peut pousser les chiffres. Maintenant, si on passe sur des nombres de Mach un petit peu plus raisonnables, de l'ordre de quelques dizaines, ce sont des jets de formation d'étoiles. Il y a ici une étoile en formation. Il y a des ramenées dans la chute de gravitationnelle qui forment tout le cocon central. Et vous avez la libération de la quantité, partie de la quantité des mouvements sous forme de ces jets collimatés. Ces jets sont supersoniques et vous avez cette structure finale en choc en épave qu'on va pouvoir voir. Et encore un autre exemple, donc de géométrie un petit peu plus complexe, c'est pas sphérique, mais les principes sont exactement les mêmes. On voit ici, vous avez en rouge, vous avez la partie rayonnement de souffle, c'est-à-dire quelque chose, le refroidissement du gaz, et en vert, vous avez des rayons de combinaison d'hydrogène qui vous montrent que c'est assez chaud ici, c'est quelques 10 000 degrés. Et surtout, on commence à avoir les capacités aujourd'hui, si on fait défiler les années, à voir bouger ces chocs. Donc on peut commencer à faire des mesures de vitesse raisonnables. Vous voyez, ici vous avez un zoom sur la partie, c'est pas forcément le même, mais c'est un zoom sur le choc, sur les trames en finale. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de possibilités de tester nos connaissances sur le développement de ces phénomènes. Et puis, comme je vous le disais, tous les objets bougent avec une vitesse du son qui est faible dans le milieu extérieur. Donc voilà une étoile à l'avant de l'étoile. Vous avez un choc en épave avec un nombre de Mach de l'ordre de 100 à peu près. Donc, celle-là est rapide, donc de l'ordre de 100. Donc, encore un autre exemple, ce sont toutes les ondes de choc dans les... Alors là, MHD, c'est là où il faut le champ magnétique. Du vent solaire sur la magnétosphère terrestre ou de l'héliosphère par rapport à son mouvement dans le gaz entre les étoiles autour de nous. Je vous signale que si ça c'était l'héliosphère, pas la magnétosphère en l'occurrence de Saturne, si ça c'était le milieu interstellaire et ça la magnétosphère du Soleil, on a une sonde qui est juste quelque part à la moitié ici, une autre qui doit être à peu près par là en train d'arriver. Et je ne préfère même pas vous en parler parce que d'abord c'est de la MHD donc personne n'aime, mais secondo, les gens sont complètement perdus, c'est-à-dire les connaissances qu'on a de physique de ces chocs à ce niveau-là, traversés par une sonde, ça ne correspond absolument pas à ce qu'on trouve. Le champ magnétique fait des choses extrêmement bizarres, ils appellent ça de la mousse magnétique, ça vous dit un peu l'état de la théorie qui est derrière. Donc, on oubliera. Donc, juste, alors là, on passe dans les équations. Je ne vais pas toutes les commenter, mais simplement, vous les avez. Je pense que vous aurez les fichiers PDF derrière, donc j'ai pensé à ça. Je me suis dit, si vous, vous prend un jour une insomnie, vous avez envie de vérifier toutes les maths. Donc, on en a une série comme ça. Simplement, je vais juste commenter d'où je suis partie et où on est arrivé. Puis, alors après, les développements des rotationnels et les divergences, je vous les laisse. Donc, il y a une chose qu'il faut se rappeler. Alors, qui a fait de l'hydro dans son passé plus ou moins lointain, pratiquement tout le monde. D'accord, donc je m'appuie quand même sur une base. Donc, il y a une chose quand on fait l'hydro, c'est que même si on isole un petit bout du fluide ici, il y a deux manières de le faire changer dans le temps. C'est d'abord parce que lui-même a un changement intrinsèque. Il y a des sources ou des puits à l'intérieur du phénomène, que ce soit une masse, une énergie ou une quantité de mouvement. Et puis, une deuxième manière de le faire changer, c'est simplement que la géométrie du flot va évoluer. Donc, on va avoir des changements temporels liés au fait qu'il y a des divergences, le flot se disperse, ou au contraire, se concentre. Donc, ça, on peut trouver. Il faut donc tenir compte d'une dérivée dans le temps qui tient compte de ces deux phénomènes, qui tient compte, d'une part, des variations intrinsèques dans le temps de la quantité que vous voulez mesurer, par exemple, la masse volumique, et puis de la partie convective de l'histoire, c'est-à-dire que la géométrie changeant, vous allez avoir des variations temporelles induites par ces variations de géométrie. Et ça, c'est très rapide à démontrer. Vous prenez simplement que votre quantité, c'est avec Taylor, vous prenez que ρ2, c'est ρ1, plus des approximations autour de l'état 1, et vous prenez des variations spatiales, des variations temporelles, vous tirez sur le fil, et vous démontrez rapidement qu'ici, il y a bien une divergence qui fait que si la géométrie du flot est divergente ou au contraire convergente, vous allez avoir une variation temporelle. Et donc, comme toutes nos lois de conservation physique, ça va nous conserver la masse, la quantité de mouvement et l'énergie, il va falloir qu'on prenne les deux phénomènes à chaque fois. Donc, pour prendre ces deux phénomènes, pour la conservation de la masse, il y a une ruse derrière, qui est derrière tous ces transparents. Une fois qu'on a compris la ruse, c'est tout bête à tirer, c'est vraiment après des maths à appliquer. La ruse, elle est que quand vous voulez faire ce bilan de qu'est-ce qui varie dans le temps, c'est-à-dire une partie varie intrinsèquement dans le temps, mais ce qui va varier à cause de la géométrie, bah, ce qui varie à cause de la géométrie, c'est ce qui rentre d'un côté, ce qui sort de l'autre. Or, ce flux qui passe à travers la surface fermée que vous êtes en train d'étudier, il y a un théorème dont vous vous souvenez, si je vous dis Ostrogradsky, ça va faire peut-être titre dans la tête, c'est que le flux à travers la surface, c'est l'intégrale de la divergence sur le volume. Et donc, ce que vous allez compter, c'est ce qui entre et ce qui sort, et vous allez très rapidement passer par Ostrogradsky pour le définir comme une intégrale volumique. Et quand vous avez une variation interne la variation interne qui est égale à la variation au bord, c'est-à-dire que le total doit être conservé, si vous en avez une variation à l'intérieur, c'est que vous allez rentrer ou sortir par les bords, vous allez passer par l'intégrale volumique, et du coup, vous allez passer toutes vos intégrales sous forme de volume. Et comme vous avez un terme intégré en volume qui peut être par exemple nul si vous avez dit que la somme des variations est égale à zéro parce que tout ce qui entre et tout ce qui sort, ça doit faire zéro. Eh bien, vous moquez des intégrales. L'intégrale sera nulle si ce qui est à intégrer est zéro. Et donc, cette ruse, elle est partout dans tous les transparents derrière. Donc, on passe les surfaces en volume, on passe tout sur une intégrale en volume et on ne garde que integral. Comment on dit ça en français ? Le terme qu'on veut intégrer. Donc, la conservation de la masse, bah, c'est la variation de la quantité de matière dans le temps, plus ce qui sort à travers la surface, la quantité de matière qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre. Vous tirez sur le fil et vous retrouvez avec cette expression qui vous dit que la variation complète dans le temps, bah, c'est simplement la divergence du flot. S'il y a concentration ou au contraire dispersion. Alors on ne va pas manipuler toutes ces équations à chaque fois, on va prendre des cas super simples après pour faire des ondes de choc toutes bêtes. On va simplement se rappeler très souvent un flot perpendiculaire à une surface qui nous intéresse et comme par hasard tout à l'heure ça va être le choc qui sera ici. Donc s'il n'y a pas création de matière ni de déperdition de matière dans le temps à l'intérieur, ben, vous allez compter ce qui rentre d'un côté et bien là, ce qui sort de l'autre. Et ce qui s'écrit beaucoup plus facilement ici, le produit de la masse volumique et de la vitesse doit être constant, ce qui rentre d'un côté est égal à ce qui sort de l'autre. Donc si on fait la même chose sur la quantité de mouvement, c'est le même principe de raisonnement. Je vais pas plus loin que ça, je veux vraiment vous dire ce qu'il y a derrière, parce que quand les équations, vous les verrez pour les ondes de choc, vous saurez ce qu'elles veulent dire. Bah, pour la quantité de mouvement, on a vu Newton, et pour dire Newton, c'est simplement que vous avez une quantité de matière quelque part, donc elle a une quantité de masse, rho, la masse oblique fois le petit volume, et la vitesse, ça c'est la quantité de mouvement, et vous pouvez changer cette quantité de mouvement par des forces extérieures ou simplement par la pression. Et vous devez faire le bilan de toute la quantité de mouvement, c'est-à-dire, ça c'était un rho, je ne sais pas pourquoi, le bas de rho avait été bouffé. Vous avez la quantité de mouvement qui veut varier intrinsèquement et qui peut varier aussi parce qu'il y a la quantité de mouvement qui rentre et il y a la quantité de mouvement qui sort. Donc si on dit que la variation totale de la quantité de mouvement, ce sont les variations internes plus ce qui passe à travers la surface, eh bien ça doit être égal à la somme des forces extérieures. Donc là vous avez les forces de pression, qui assignent moins parce que évidemment les surfaces sont toujours notées vers l'extérieur alors que la force de pression de l'extérieur, elle appuie vers l'intérieur, et puis n'importe quelle force que vous voulez mettre, de la gravitation, du moment qu'elle dérive d'une énergie potentielle, vous êtes tranquille. Vous tirez sur fil des intégrales en volume, et vous retrouvez avec cette équation, et puis des variantes que je vous ai mises, parce qu'on les trouve beaucoup dans les bouquins, jamais les mêmes, d'ailleurs, il faut faire trois bouquins pour trouver les trois variantes, mais c'est surtout que de temps en temps, si vous avez un calcul à faire, ce sont des variantes qui peuvent être très utiles. Donc, vous voyez qu'ici, ça nous dit que la somme des forces agit sur la quantité de mouvement. Ici, vous voyez sortir des choses en énergie cinétique, ça peut être pratique de passer d'une à l'autre. Alors, si on fait le cas simple, on a simplement ici bah, les pressions qui vont revenir là, et la conservation, ça sera l'énergie cinétique de dynamique, ground pressure pour les cas en anglais, plus la pression. Qui doit être conservé. Ça nous dit que la quantité de mouvement est conservée. Ça, c'est la démonstration dont j'ai besoin pour le faire en une ligne ici. Donc ça, je vous le laisse, c'est juste tiré sur les maths. Pour la conservation de l'énergie, là, c'est la même chose, on va s'appuyer sur la thermodynamique, donc le premier principe, c'est que les variations en puissance, les variations de puissance, c'est soit parce qu'il y a une puissance, une chaleur qui rentre à l'intérieur du système et qui en sort, soit parce que vous avez un travail mécanique, il y a forcément au moins le travail des forces de pression. Donc si on écrit la conservation d'énergie, on a une énergie interne, la température, donc ça c'est l'énergie cinétique microscopique des mouvements aléatoires. Là vous avez l'énergie cinétique macroscopique, c'est-à-dire qu'il y a globalement mouvement du fluide. Et c'est cette énergie totale qui doit être conservée, elle a des variations internes. Il y a des groupes qui fuient à travers la surface ou qui rentrent, et ça, c'est égal à la somme des travaux des forces. Donc, les forces de pression, les forces mécaniques extérieures, et puis, surtout en astro, vous avez, ou même dans le sol, vous avez des termes de déperdition d'énergie qui peuvent être importants, ou des termes de création d'énergie, de puissance. C'est pas l'énergie, c'est des puissances. Donc, ces termes disent qu'il y a tant de mouvements qui est créé en interne, si vous avez une source interne d'énergie, et autant qui peut être parti, notamment par le rayonnement, si jamais il y a besoin. Vous tirez sur le fil mathématique, et voilà le champ d'expression que ça vous donne, et on retrouve sous cette forme-là, on voit bien ce que j'ai dit, ça c'est la variation totale de l'énergie cinétique micro et macro, et puis égale à la somme des travaux des forces plus les puits et les sources de rayonnement. Si elles sont de rayonnement. Ça, c'est une variante, je vous la mets, parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Toutes les relations de son des ondes de choc dont je vais parler sont plutôt sous cette forme-là que sous la forme précédente. Mais ça dit exactement la même chose. Ça dit que la variation temporelle, et là, il y a une divergence, on sait tout de suite que c'est ce qui rentre et ce qui sort, est égal à quelque chose qui est donné mécaniquement par l'extérieur ou par les processus radiatifs. Et on retrouve nos petits, on retrouve l'énergie interne de désordre, microscopique, l'énergie cinétique d'ordre, et on retrouve les énergies potentielles, et là on retrouve évidemment la pression qui est le travail externe. Donc c'est juste pour vous armer à lire qu'est-ce qu'il y a derrière ces notations. Donc, dans le cas de quelque chose, notre choc tout bête normal avec des bornes toutes plates, bornées par le plan, bien on va dire la conservation s'écrit comme le terme ici de ces trois énergies, énergie des formes, enfin par les forces de pression et les deux énergies cinétiques, et il faut qu'elles passent à travers le système d'un côté et de l'autre, et puis de l'autre il y a éventuellement des sources ou des pertes supplémentaires ou juste les travaux des forces. Voilà ce que ça dit, on n'a rien de plus compliqué, je vous le commande plus que je vous fais les maths, là on résume à peu près 6 heures de cours de mathématiques, mais l'idée c'est vraiment de comprendre ce qui est derrière. Et quand on a ce jeu d'équations, on a tout ce qu'il faut, sauf que souvent on n'a pas assez d'équations, parce qu'il faut fermer le système d'équations, et fermer le système d'équations, si on est sur un gaz, alors dans le sol ça ne sera pas ça, il y aura des tenseurs de stress et de choses comme ça, mais pour, si c'est pour un gaz, on va pouvoir simplement utiliser une équation du style isentropique, c'est-à-dire adiabatique, c'est-à-dire la pression est proportionnelle à la masse volumique à une certaine constante. Alors, si c'est un gaz parfait, ben, vous vous rappelez que c'est 5 tiers, si c'est diatomique, l'air, on va prendre 7 cinquièmes. Je vous signale en passant, parce qu'en astro, on a beaucoup de chocs relativistes, que pour des gaz relativistes, l'indice adiabatique c'est 4 tiers, ce qui veut dire que c'est plus compressible. Un gaz relativiste est plus compressible qu'un gaz parfait. Ça peut être aussi une transformation isotherme, à ce moment-là, vous mettez un gamma égal à 1, au passage, c'est une astuce mathématique qui marchait. Et donc, ça nous permet, cette équation, de définir quelle était la quantité d'énergie interne par unité de volume, qui était dans les équations précédentes, donc l'énergie cinétique microscopique par unité de volume, là, ça va être, je vous redémontre ici avec la loi des gaz parfaits, mais c'est simplement la pression sur gamma moins 1, et puis si vous rajoutez le travail des forces de pression pour faire l'enthalpie, là, ça va faire un BV de plus, et ça fait gamma sur gamma P sur gamma moins 1. Et comme les équations des chocs utilisent ce formalisme, vous voyez d'où ça vient. Donc ici, juste l'énergie cinétique microscopique, et là, vous avez rajouté le travail des forces de pression dans le bilan de l'énergie. Alors quand c'est MHD, c'est plus lourd, mais pareil, je vous donne des équations et on le fait juste avec les mains, pas plus, et puis il n'y a plus qu'un transfert comme ça, pour vous dire un petit peu ce qu'il y a derrière, pour réagir avec les expressions qu'on aura après. Donc quand il y a la partie MHD, on fait la même chose pour l'hydro, conservation d'énergie, etc., mais il faut qu'on rajoute le comportement du champ électrique et du champ magnétique. Alors pour ça, on a notre batterie habituelle, les équations de Maxwell, ça c'est, vous les connaissez. On peut s'appuyer dessus, mais on fait souvent de la MHD idéale, c'est ce que Sacha Brun a dû vous montrer pour le vent solaire, de la MHD idéale, et je vais vous redonner en 10 secondes ce que ça signifie. C'est tout simplement, on se met dans le référentiel du fluide, et donc ce référentiel, si c'est pas un choc relativiste, ne bouge pas les facteurs de Lorentz compliqués. Donc on va dire carrément un facteur de Lorentz, zut, c'est pas clair, ça va être un grand gamma ici. Le facteur de Lorentz, on va le prendre de l'ordre de 1 si on n'est pas sur des objets relativistes. Et on va dire que dans le référentiel du grumeau de fluide, du blob qui se promène, on a simplement la loi d'Ohm, c'est-à-dire que le courant est la conductivité fois le champ électrique. Ça, c'est en interne. Et puis, on passe dans le référentiel de l'observateur. Et dans le référentiel de l'observateur, on applique la transformation de Lorentz, tout simplement, et ça nous donne donc ce champ électrique. Et parce qu'il y a un mouvement du fluide, on voit qu'il y a un champ électrique supplémentaire qui est créé, et qui s'appelle V. Crosby, pour, je ne sais pas le dire, désolé, je connais tous ces termes en anglais, mais je ne connais pas bien les termes en français.
La force électromotrice.
Oui, c'est la force électromotrice, mais oui, oui, merci. Je suis bien comme ça. Donc V vectoriel. Donc, on a ce courant, puis après, on porte ça dans l'équation de Maxwell pour faire sortir que les variations du champ magnétique dans le temps sont la vorticité de cette force électromotrice, de V vectoriel B, et un terme en gradient laplacien, donc ça, c'est un terme de diffusion. Donc, on a d'une part des variations du champ magnétique qui sont liées à des rotations du champ électrique, et d'autre part, au fait que s'il y a des inhomogénéités quelque part, elles vont diffuser. Elles vont diffuser évidemment en s'atténuant.
elles vont s'atténuer avec une certaine efficacité qui est la diffusivité magnétique en français comme en anglais. Et donc, c'est un terme qui peut être très important pour beaucoup de termes de physique, de tokamak, de choses comme ça. Dans les conditions de l'univers, ce terme est très souvent négligeable. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des systèmes qu'on utilise, la conductivité est très très forte. On a facilement de l'ionisation, il y a des charges qui circulent partout, et quand ces charges circulent, elles se comportent vraiment comme un plasma idéal. Puis d'abord, si ce n'est pas idéal, on ne sait pas le calculer bien, donc on se prend toujours l'approximation. On commence à être obligé d'entrer dans des plasmas pas idéaux avec des conductivités fines. Je peux vous dire que d'un point de vue de calcul imagé sur les gros ordinateurs, c'est un plasma chinois. Mais y arriver, comment ça y arriver ? Et pendant très longtemps, on prend le cas idéal, c'est-à-dire une conductivité infinie, ce qui fait que du coup, le champ électrique se ramène à quelque chose de simple, qui est moins vectoriel B, et le champ magnétique n'est plus que le rotationnel de cette chose-là. Et c'est une propriété sympa, qui est qu'on ne peut plus perdre dans ces conditions-là, les charges se réajustent très rapidement, il faut très très peu de différence de vitesse entre les ions et les électrons. Un tout petit changement suffit à créer des champs électriques, des courants, donc des champs électriques suffisants. Et du coup, dans ces conditions de plasma idéal, on va dire que le champ magnétique est gelé dans la matière. C'est-à-dire que si le flot entraîne la vitesse entraîne la masse volumique, elle entraîne aussi les lignes de champ. Parce que, vous avez la démonstration ici, les variations du flux sont égales à zéro. C'est-à-dire qu'il y a des variations de flux à l'intérieur d'un volume parce d'un tube de courant de champ magnétique, parce que vous avez une variation intrinsèque du champ magnétique, et puis vous avez aussi perte de flux par les parois du tube. Ben, les deux se compensent. Et ça fait zéro au final. Vous n'avez plus le droit de perdre de flux du champ magnétique. Et ça veut dire que si vous concentrez le gaz dans un flux convergent, ben, vous allez entraîner les lignes de champ avec. Si au contraire, vous le faites diverger, vous allez entraîner les lignes de champ avec. Et un tout petit terme dont j'ai besoin encore, c'est de vous rappeler que la force de Lorentz a deux termes. La force de Lorentz, c'est le courant vectoriel B, QB vectoriel B. Vous ramenez, si vous avez la démonstration mathématique, en reprenant Maxwell, le rotationnel de B en fonction du courant, vous portez ici, et vous trouvez mathématiquement qu'il y a deux termes. On retrouve ici un gradient de quelque chose, et ce quelque chose, c'est un terme de pression, c'est la pression magnétique, des 2 sur 2 mu, vous connaissez, et là, on a un terme de tension. Donc en fait, quand vous avez un plasma idéal, et ça c'est vrai pour toutes les magnétosphères, encore je vous dis aujourd'hui, ils sont obligés, aussi bien dans les pulsars que dans le vent solaire, à ne plus être dans un cas idéal, mais dans le cas idéal, vous entraînez les lignes de champ avec vous, et du coup, elles vont réagir de deux manières. Elles vont réagir soit en refusant par pression de se laisser rapprocher, soit parce qu'elles elles ont une certaine vorticité, c'est-à-dire un certain rayon de courbure, elles vont chercher à se retendre. Et bon, ça, c'est la tension magnétique, ça, c'est la pression magnétique. Et sur un choc, si le champ magnétique n'est pas important, bah, le gaz va faire ce qu'il a à faire avec ses conservations de quantité de mouvement et d'énergie. Si le champ magnétique est là et qu'il commence à jouer un rôle, ce sont ces deux phénomènes ici qui vont intervenir pour empêcher le choc de faire des choses trop poussées en compression, etc. Parce que même si le gaz voulait bien se laisser comprimer, le champ magnétique, lui, ne va pas vouloir. Et si jamais le champ magnétique avait des tournants, il va chercher à se redresser. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc ça, c'est exactement les relations de conservation que vous avez écrites là, mais qui vous disent la conservation de la masse, on n'a rien touché. La conservation de la quantité de mouvement, alors c'est comme exactement le précédent, sauf qu'on a ajouté ici à la pression thermique, vous avez la pression magnétique, et puis vous avez la tension magnétique, qui fournit une pression supplémentaire en cherchant à redresser les lignes de champ courbes. Et puis pour la partie énergie, ben vous avez les mêmes termes que tout à l'heure, plus l'énergie du champ magnétique, d'une part, et pour les termes de ce qui fuit, vous avez aussi la fuite du flux magnétique ici, ça, vous connaissez, ça s'appelle le flux du vecteur de Poynting. Donc, on rajoute simplement en termes d'énergie, Poynting dans un coin, et là, la tension et la pression magnétique qui rajoute. Donc, je ne vais pas aller plus loin, c'est juste pour vous. Oui, je t'en prie. Oui,
donc, c'est pas dissipatif du tout, ça.
Non. D'accord. Heureusement. Non, c'est si on met la conductivité finie, ça devient dissipatif.
Ou de la viscosité.
Alors, pour le sol, oui, je pense que vous avez des tensions de viscosité. J'ai aperçu ça dans quelques équations. Il y a de la viscosité, effectivement. Pour le gaz, la viscosité, on ne la prend pas. Non, non, on fait des gaz parfaits. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais on ne peut pas, parce que dans les calculs aujourd'hui, ce que j'en comprends, c'est que dès qu'on met une prescription de viscosité ou de conductivité, ce sont des prescriptions. Ça n'est pas auto-calculé. Donc, si ça se trouve, on est complètement planté sur la valeur qu'on met. On teste dans les magnétosphères de pulsars ou de la Terre. Il était une fois une prescription de conductivité. Ça n'est pas un calcul autocohérent du fait que la conductivité dépend des courants et donc de la disposition des courants, etc. On n'en est pas. On ne tient pas la route. Déjà, quand on met une conductivité finie, ça coûte des heures de calcul monstrueuses sur des très gros calculateurs. Donc je ne sais pas. Sacha est parti, c'est dommage. Je ne sais pas où ils en sont, eux, pour le vent solaire, etc. Je pense qu'ils doivent commencer à mettre des choses assez sophistiquées et pas rester dans le cas MHD idéal, mais je ne pourrais pas le jouer. Voilà, donc on arrête avec les divergences, c'est bon, c'est le même truc. On va faire un petit peu plus simple, mais c'était vraiment pour vous montrer, quand vous voyez P plus 1 demi de Rho V2, etc., d'où ça vient et surtout ce que ça signifie. Après, on peut avoir des réflexes dessus. Donc, pour revenir dans le monde normal, on va essayer de regarder un petit peu justement comment ça marche. Donc, je vous rappelle quand même juste au passage la vitesse du son, parce que dans les mouvements supersoniques, il faut quand même comparer à la vitesse du son. Donc, au nombre de Mach, qui est le rapport de la vitesse sur la vitesse du son, de montrer que, en fait, bon, ça c'est une petite relation qui va ressortir tout à l'heure, c'est que justement, le rapport de ces deux formes d'énergie cinétique. La forme d'énergie cinétique de mouvement global et la forme d'énergie cinétique dans les mouvements brownien en dessous. Ce rapport est proportionnel au carré du nombre de Mach. Donc ça va augmenter très vite. Dès que vous bougez un tout petit peu et que l'onde est un tout petit peu supersonique, vous allez avoir une relation très très en faveur du mouvement global par rapport à ce qui se passe. Or, le but du nombre de choc, c'est justement d'inverser ce rapport. On va voir comment elle s'y prend. Oui.
Tu rappelles ce que c'est que le nombre de Mach.
Le nombre de Mach, c'est la vitesse du flow divisé par la vitesse du son. C'est le nombre de fois la vitesse du son qu'on a dans la vraie vitesse du flow. Et je crois qu'il est rappelé sur le transparent d'après. Donc, vous avez ici des exemples de mouvements supersoniques qui font que vous voyez matérialiser ici par l'indice de réfraction de l'air. Donc ça c'est un bolide, vous savez, dans la vallée de c'est là où ils font des essais de vitesse, c'est complètement fou, s'ils mettent un petit coup d'œil, ça devient l'avion tout de suite. Mais bon, il y a des ondes de choc générées par toutes les ruptures de la forme de ce bolide. Et donc, ça crée des ondes de choc dans l'air. Et comme la pression n'est pas la même, la vitesse de la lumière n'est pas la même. Et donc, vous vous retrouvez avec des densités différentes et donc des indices de réfraction différents. Et on voit très nettement ces indices de réfraction. Ça va assez haut. C'est super. Ici, vous avez la même chose, mais vu de la navette et le catalyseur qui permet d'avoir l'onde de choc, qui démarre ici. Là, vous voyez, en fait, elle est là. C'est la cristallisation des petits cristaux de glace, la condensation des petits cristaux de glace. Bon, après, vous l'avez vu, parce que c'est chaud. Ce qui est très important, c'est le fait que quand vous avez... Le but du don sonore, c'est bien de véhiculer un changement de pression, et de manière à ce que, rapidement, la pression s'uniformise. C'est l'idée du son, c'est vraiment d'essayer de distribuer le surcroît de pression le plus vite possible dans un milieu partout, à la vitesse du son. Donc si vous avez un mouvement supersonique, là, ça veut dire que les ondes de pression qui sont ici peuvent circuler à l'arrière, ça sans problème, mais elles ne peuvent pas remonter à l'avant. Et c'était ça la source. C'est pas la source de ce truc-là, c'était le nez, et la source de ce truc-là, c'était le bout du booster ici.
Donc, il n'y a pas moyen que, puisque l'objet bouge plus vite que le son, il n'y a pas moyen que le changement de pression ne remonte prévenir l'air qui est à l'avant en disant attention, tu es en train de prendre la navette sur la tête et tu ferais bien de commencer à te comprimer. C'est pas possible. Donc, c'est tout le but de l'onde de choc, ça va être de retransformer cette énergie cinétique macroscopique de mouvement en pression pour que derrière ça puisse être beaucoup plus homogène en pression. Alors, donc c'est ce que je vous dis ici, donc c'est de ramener cette énergie cinétique ordonnée, un demi de Roméneux, en énergie cinétique brownienne, derrière, température. Alors pourquoi on a un front aussi net d'une onde de choc? C'est parce qu'il y a un durcissement du profil. Si vous prenez un piston ici et vous poussez, comprimez le gaz ou le liquide ou le fluide qui est devant par rapport au milieu qui ne l'a pas encore atteint. Et cette compression va faire que si on regarde la vitesse du son, si je prends un gaz par exemple, elle est proportionnelle à P sur ρ, à la masse volumique. Donc si je mets mon équation adiabatique préférée, P est proportionnelle à ρ puissance kappa, ça me fait, on voit bien que la vitesse du son dépend de la densité du milieu. Si je fais ça avec un champ magnétique, ça s'appelle une vitesse d'Alvin, l'équivalent de la vitesse du son, c'est-à-dire la vitesse à laquelle pourrait se propager une déformation du champ magnétique, c'est B sur quelque chose, et on voit que c'est proportionnel à B aussi. Donc si vous comprimez B, vous allez changer la vitesse de propagation des ondes dans ce milieu-là. Donc si vous avez un profil de pression où il y a plus de pression ici que là, ben vous allez avoir une vitesse de propagation de l'onde aussi bien sonore que magnétique, qui sera plus rapide ici que là. Et vous voyez que s'il y a une petite perturbation douce et un peu plus forte, vous allez redresser le nez du front d'onde. Et automatiquement, vous allez arriver à quelque chose qui va être tellement tendu. On va faire une fonction marge d'escalier mathématique. C'est clair qu'un choc, c'est une discontinuité, c'est un gradient vrai derrière. C'est pas, nous, on va le faire avec une marge d'escalier pour simplifier la vie. Et une autre manière de le voir aussi, si vous avez, donc ça c'est vraiment intrinsèque. Je veux dire, vous poussez sur un milieu, vous allez redresser à l'avant un front qui va devenir un front assez net. Et une autre manière de le faire, c'est si vous allez à une vitesse supersonique. Parce que les ondes sonores qui partent donc à des instants, ici, celui-là est parti il y a plus longtemps, trois fois plus longtemps, deux fois plus longtemps et dernièrement. Si vous êtes un mouvement subsonique, toutes ces crêtes de surpression sont intégrées les unes à l'intérieur des autres. Si vous êtes en mouvement supersonique, ça c'est décentré sur dans le temps moins 1, celui-là sur le temps moins 2 et celui-là sur le temps moins 30. Et comme l'objet a bougé plus vite que la vitesse du son, bien vous voyez tout de suite le cumul des ondes sonores ici qui se met sur ce qu'on appelle le cône de Mach. Et qui fait que quand vous arrivez ici, que ce cône va vous passer dessus, d'abord vous n'avez jamais entendu l'avion supersonique avant, parce que là, les surpressions n'ont pas pu arriver, et quand ça va arriver, vous allez avoir le choc, c'est-à-dire la concentration des surpressions et un profil de discontinuité extrêmement abrupt. Donc cette discontinuité, c'est quelque chose d'intrinsèque, dans la mesure où la vitesse de propagation dépend de la densité du milieu. Si vous densifiez le milieu, automatiquement vous allez avoir redressement des fronts de perturbation. Vous n'aurez pas des choses sinusoïdales bien douces. Et en plus, si vous avez un mouvement supersonique, bah vous allez en plus concentrer à un endroit sur un cône ce qui se passe. Et on voit bien ici, sur le nez de cet avion de chasse qui est en vol supersonique, on voit le cockpit, et on voit l'onde de choc qui fait un superbe cône. Vous avez un film sur YouTube assez extraordinaire, j'ai pas réussi à le piquer. Vous voyez derrière le cône de Mach qui est matérialisé. Vous voyez bien que le nez ici, c'est ça qui a provoqué, c'est cette forme-là qui a provoqué cette onde. Elle est derrière, elle est détachée. En fait, le cône est là, et bon, ça se matérialise mieux avec les ailes ici derrière. Donc la source est toujours à l'avant de la perturbation. Et pour faire plus de géophysique, on va regarder le volcan de Nouvelle-Guinée, ici. Vous avez vu l'onde de choc passer ?
Oui.
Je vais le refaire. Bon, il y a l'éruption. Et voyez l'eau de choc dans l'air. Très en avant. Donc, il y a une surpression.
C'est vraiment une discontinuité. Je pense que maintenant, vous en êtes...
Ah oui, j'avais un
horizon and Toledo. L'expression. Je peux vous dire que la personne qui a fait le film est américaine, rien qu'à ça. Donc, c'est bien une discontinuité qui arrive. C'est extrêmement, entre parenthèses, si vous faites ça pour des volcans, j'espère pas celui d'ici, vous avez intérêt à prendre un, faire attention à vos oreilles, parce que c'est un coup, ça lève les tympans, c'est très puissant. Donc, il y a un redressement du fond de surpression et accumulation dans ces supersoniques. Donc, quel est le but d'une onde de choc? Bah, c'est justement de faire que le milieu, de redevenir subsonique. C'est tout son travail. Donc, on va jouer avec plusieurs référentiels. Donc, vous avez ici, ça c'est le référentiel de nous, observateurs, voyant l'éruption et l'onde de choc qui est partie dans l'atmosphère qu'on vient dans l'image il y a un instant. Donc, vous avez ici, et puis il y a une onde de choc qui arrive avec la vitesse des chocs sur nous. Donc derrière, on a forcément quelque chose de beaucoup plus comprimé, un gaz beaucoup plus comprimé et qui est derrière. Donc ce qu'il faut qu'on trouve, c'est les relations thermodynamiques entre donc la pression, la température, la masse volumique et la vitesse, savoir ce qui était en amont et surtout ce que ça va devenir derrière le choc avec cette compression. Et on peut aussi s'asseoir sur le choc, sur la photo de tout à l'heure, et puis donc voir le milieu amont arriver sur nous à la vitesse moins la vitesse du choc, et du coup voir ce qui se passe derrière. Et ce qui va se passer derrière, c'est qu'à cause de la compression, la vitesse va diminuer, c'est évident, donc vous allez réduire la vitesse ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, vous arrivez ici avec beaucoup de vitesse macroscopique et vous allez ralentir. Si on comprime un gaz, il chauffe, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'énergie cinétique organisée ici et vous allez la transformer en énergie cinétique désorganisée, température derrière le choc. Et vous allez chauffer suffisamment pour que la vitesse du son, qui est proportionnelle à la racine carrée de la température, augmente ici. Et vous allez redevenir subsonique derrière le choc, ce qui fait que les ondes de pression vont pouvoir circuler et réhomogénéiser les pressions derrière. Voilà le but d'une onde de choc. Et j'ai trouvé ça dans un cours américain que je trouve génial, parce que l'analogie est formidable. Chapeau à la personne, alors je n'ai pas son nom. Chapeau à la personne qui a pensé à ça. C'est exactement comme le comportement humain, une onde de choc. Vous avez un événement dramatique, tout le monde part en fuyant. Quelque part, il y a un choc psychologique, vous commencez à discuter en disant « Oh là là, parce que ce qui s'est passé, on l'a échappé pas, etc. » Ici, vous aviez tout le monde qui courait, vous aviez une énergie cinétique globale, macroscopique, et là, bah, vous allez commencer à raconter à tous vos collègues partout, etc. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. » Vous allez mettre du désordre, c'est connu, et donc vous allez transformer ça en température. Et parce que vous transformez en température, vous allez redevenir subsonique. Et vous allez pouvoir retrouver un comportement normal qui n'était pas celui-là. C'est exactement le travail d'une onde de choc. Je vous le dis en rigolant comme ça, mais je pense que vous mémoriserez ce schéma-là peut-être mieux que tous les schémas qu'on a racontés précédemment. Alors, pour revenir sur la partie physique, c'est la même chose, donc il n'y a rien de nouveau ici, simplement je vous les ai réécrites dans le format où on les trouve toujours, c'est-à-dire ces relations qu'on appelle Rankine et Hugonion, un anglais et un français, polytechnicien de 1889.
Ensuite, je voulais vous mettre les photos des deux personnes que je les avais trouvées.
Je suis prêt à le faire. Donc, voilà les relations de continuité qu'on a écrites précédemment. Donc, vous les voyez comme ça. L'astuce du même entre crochets est 2 et 1.
C'est comme pour les intégrales. On prend la bande du haut moins la bande du bas.
On voit qu'on regarde le produit du flux de matière, ou fois U perpendiculaire. Alors, le jargon, ils sont casqués. Le jargon des. Ici, c'est vraiment perpendiculaire et parallèle au choc. Et je suis désolée pour vous, mais quand on fera de l'accélération, c'est exactement l'autre convention qu'ils ont prise. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est parallèle quand c'est parallèle à la normale au choc.
Mais c'est malheureusement le cas dans toute la littérature. Donc pour l'instant, je vous ai remis le schéma à côté. Donc on doit conserver la partie rond 1, rond 2, U2 perpendiculairement au choc. La partie parallèle se conserve, c'est-à-dire que cette partie-là va se transférer tranquillement, sans bouger, à travers le choc. Ça n'est que la partie perpendiculaire qui va bouger. Donc automatiquement, le milieu, s'il avait un mouvement global, il va prendre un virage. Il ne peut rien faire d'autre. Vous avez la conservation, donc ici on retrouve la quantité de mouvement, donc le travail des forces de pression et l'énergie cinétique macroscopique, celle-là. Ici, l'énergie, c'est le flux de la quantité de mouvement à travers la surface. Ici, ce sont les énergies, donc sous deux formes, énergie macroscopique, énergie microscopique, le travail des forces de pression, et si vous rajoutez ça, ça fait l'enthalpie, ça vous fait ce terme ici. Et c'est le flux de ce truc-là à travers la surface qui doit être conservé, puisqu'on prend un choc stationnaire. Ça, c'est simplifié, il y a tous les dérondés sur dérondés, toutes les variations D sur D qui ont été annulées. C'est souvent le cas, le choc est relativement gentil, il avance, mais sa physique interne ne change pas trop rapidement, donc on peut annuler tous les termes de variation temporelle. Donc, vous avez, quand vous avez ce jeu d'équations, ici, pour la partie hydro, je ne sais pas, la partie MHD, vous pouvez les triturer, les faire sortir, c'est un peu long à faire, il y a un fil à attraper pour le faire au moins de dommages, mais vous pouvez trouver les rapports densité aval sur densité amont, le rapport vitesse amont sur vitesse aval et les rapports de pression et de température. Et ces rapports font intervenir quelque chose ici, parce que vous avez rond 1 égal à rond 2, vous voyez que le rapport des masses coloniques est l'inverse du rapport de vitesse, bien sûr, et ce rapport de compression est quelque chose qui ne dépend que de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la qualité du gaz. Gamma 5 tiers, gamma 7 cinquième, gamma 4 tiers, etc. Sa compressibilité, ici, et le nombre de Mach. C'est tout. Vous avez fait disparaître absolument tout dans un choc normal, comme ça, avec un plan mais juste normal. Vous avez fait disparaître beaucoup, beaucoup d'informations intrinsèques sur toutes les énergies, etc. Ça ne devient qu'un rapport assez simple. Et les rapports de pression et de température qui sont correspondants. J'avais remis la vitesse, la définition ici du nombre de Mach. Elle est là. Donc ce rapport de compression, il dépend donc d'une fonction compliquée du nombre de Mach. Mais si on prend des grands nombres de Mach supérieurs à 10, et dans l'univers c'est très facile à faire, dans le sol je ne suis pas sûr. Donc vous êtes probablement obligé en géoptique de vous promettre une expression. Mais si ce chiffre est grand, devant 2, eh bien à ce moment-là, vous avez ce terme qui se négligeable, celui-là s'en va, et vous n'avez plus qu'un rapport de compression qui ne dépend que de la compressibilité du milieu. Donc un nombre qui ne dépend de rien, absolument pas des conditions initiales. C'est ça qui est assez formidable. Et donc ce rapport de compression va tendre vers gamma plus 1 sur gamma moins 1. Alors ça veut dire que si vous avez un gaz parfait, cette compression va tendre vers 4. Et si c'est un gaz relativiste, qui est plus compressible, vous allez tendre vers 7. Mais c'est un nombre pur. C'est quand même assez extraordinaire que vous soyez parti de conditions extrêmement variées. Vous allez toujours avoir ce saut d'un facteur 4 ou d'un facteur 7. Donc, alors ça, c'est un saut qui fait intervenir le saut entre la masse volumique aval par rapport à la masse volumique amont. Donc ça veut dire que cette courbe ici, je vous la trace jusqu'au bout, j'ai pas le temps, c'est quelque chose qui va aller saturer jusqu'à 4. Si je prends le gaz parfait, elle arrive ici, puis là elle va saturer. En inverse, la vitesse va descendre vers U1 sur R, doucement, elle va saturer à U1 sur R. Par contre, les rapports de pression et les rapports de température, eux, ils restent proportionnels au nombre de Mach. Ça va très vite. Donc, si vous avez des chocs extrêmement supersoniques, vous pouvez atteindre des rapports de pression gigantesques. Et vous pouvez aussi trouver des rapports de température gigantesques. Il n'y a pas de limite au saut de température ou de pression. Il y a une limite à la compression, c'est-à-dire à la densité et à la chute de vitesse. Et pour vous illustrer toute la physique du choc, elle est dans ces quelques expressions. Pour vous dire ce que je vous ai raconté avec les petits bonshommes qui m'indiquaient tout à l'heure. On a trois référentiels. Ces trois référentiels, c'est soit on s'appuie sur le choc, ici, on s'assied dessus, puis on avance avec lui, on regarde. Donc le milieu amont nous arrive dessus en AVC, et on vient de voir que le milieu aval, pour un choc assez fort, rapide, va partir à la vitesse moins S sur R. Ça, ah bah oui, tiens, j'ai un C, c'est un S, ça, vitesse du choc, en guillemets. Donc, vous allez arriver vite et ralentir ici en V sur R. Si je me mets sur le choc de l'observateur extérieur, qui était lui accroché au milieu amont, donc il n'a plus de vitesse en amont, je l'ai des V. Si je l'ai des U, dès qu'il y a des U dans les transparents, c'est que je suis assise sur le choc. Quand je mets des V, je suis assise dans l'amont. Et quand je mets des V', c'est que je suis assise dans le milieu aval. Je pense avoir été rigoureuse dans les transparents. Donc, quand vous êtes assis là, vous avez du coup, quelle est la vitesse? Vous voyez que la vitesse que vous voyez du milieu qui suit derrière, c'est la vitesse du choc. Là, je fais la transformation, je rajoute la vitesse du choc pour passer ici. La vitesse du choc plus U2, donc je vais avoir la vitesse du choc 1 moins 1 sur R. Ça vous montre que le milieu qui est comprimé est toujours derrière l'onde de choc. Il ne peut pas être à l'avant, puisque le milieu aval a toujours une vitesse inférieure choc lui-même. C'est pour ça que la discontinuité caracole en tête, et puis vous avez la surpression qui était derrière, qui est causée par le choc, qui reste un petit peu derrière, et qui a une vitesse inférieure, ce qu'on a vu sur les photos, je vais vous en donner quelques-unes. Ce qui est intéressant, je ne sais pas tout de suite, mais j'en reviendrai là-dessus, c'est que si vous asseyez maintenant sur le milieu aval, donc à la vitesse U2 ici, donc vous faites le changement de référentiel en ajoutant le moins VS, le moins V2 ici, vous allez vous retrouver avec une vitesse de l'amont par rapport à l'aval qui est exactement la même que de l'autre côté. C'est symétrique. Et ça, je vais m'en servir pour faire de l'accélération. C'est parce que c'est symétrique que l'accélération de particules est aussi efficace de part et d'autre. La choc, parce que ça veut dire que si vous mettez une particule ici, elle voit le milieu amont lui donner une grande gifle avec une vitesse, et puis si elle passe dans le milieu amont et qu'elle se met en équilibre avec le milieu amont, elle voit le milieu aval arriver avec une grande vitesse sur la tête. La même. Et on va jouer au tennis entre les deux. D'accord ? Je reviens là-dessus après. Donc, surtout pour la physique du choc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, là je réexprime P2 sur P1 qui était dans la diapo précédente. Donc, P2 sur P1 c'était ce rapport ici. Donc je le réexprime, je réexprime le nombre de Mach en fonction des pressions des masses volumiques. Hop, j'arrive à cette expression. J'arrive à cette expression qui vous montre ce qui se passe, c'est-à-dire que dans la pression dans le milieu aval, j'ai pratiquement toute l'énergie cinétique du mouvement qui arrivait dessus. C'est-à-dire toute cette si ça c'est 4, ça fait que j'ai 3 quarts de l'énergie cinétique qui arrivait sur le choc, qui a été transformée en énergie cinétique désordonnée dans les mouvements de température et qui n'est plus de l'énergie cinétique organisée. Et la partie qui est encore organisée, ben c'est rho de U de carré. Vous voyez que j'ai plus que 1 sur R de ce qui arrive en aval. C'est ça qu'on fait un choc. Il prend toute l'énergie cinétique de mouvement organisé et il en prend les 3 quarts pour le remettre sous forme de température. Donc ça c'est la première chose, donc la température elle est là. Et la deuxième chose que je vous disais avec les mains, c'est le fait que le nombre de Mach en aval, c'est donc la vitesse U2 divisée par la vitesse du son dans ce milieu aval, et ce milieu aval est très chaud, il a cette température bas. Vous voyez qu'il a déjà une vitesse très importante ici. Donc, comme il est très chaud, vous voyez que ce nombre de Mach est inférieur à 1. Donc, l'onde de choc prend cette énergie organisée, la remet absolument dans 3 dimensions partout, chauffe du coup, et parce qu'elle chauffe, le nombre de Mach descend, et du coup, les ondes de pression peuvent circuler, ce qui n'était pas le cas dans le milieu amont. Et en fait, on peut voir d'une autre manière ce que vous faites, parce que là, on a l'impression qu'il y a des équilibres, il y a 3 quarts de l'énergie qui était passée dans le désordre, il n'y en a plus quelqu'un qui est resté organisé. On peut le voir, en fait, si je me mets maintenant dans ce référentiel-là. Là, tout ce qui était en bleu, c'était notre référentiel aval.
Donc si je me mets dans le référentiel, ah non, désolé, je n'ai pas le temps de le coder en vert encore, parce que je n'ai pas tout retravaillé dans ce concept de médecine un peu bizarre, parce que ça vient d'un autre logiciel. Puis il y a même du français qui traîne. Donc, je vais vous mettre en vert, quand j'aurai dit. Si je regarde les deux quantités d'énergie cinétique que j'ai, vues de notre bateau sur le volcan de tout à l'heure, j'ai l'énergie cinétique interne, c'est-à-dire microscopique, des mouvements browniens. Donc je la calcule par une des masses. Bon, ben, ça fait ce que j'avais, P sur Rho, donc 3,5 de P sur Rho 2, P2 sur Rho 2. Je connais ces rapports ici, je tire sur le fil, et je trouve que c'est ce terme-là, constante fois la vitesse du choc au carré. Si je fais la même chose pour la partie organisée, ce coup-ci, donc c'est 1,5 V2 au carré, ça c'est facile à faire, je tire sur les vitesses, et je trouve que c'est exactement la même valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu l'extérieur, vous étiez sur votre bateau, l'onde de choc est arrivée, elle a pris toute l'énergie cinétique d'avancée de l'onde, et elle l'a remis en équipartition entre la partie brownienne et la partie organisée. Voilà ce qu'elle a dit. Donc vous voyez un petit peu ce qui est derrière cette onde de choc, qu'est-ce qu'elle veut dire. Voilà pour ce qui est donc de la physique qui est derrière, avec les mains aussi longtemps possible. Et donc maintenant on peut voir une application. Donc comme je vous l'ai dit, V2 vu du milieu extérieur, V2 est plus petit que la vitesse du choc. Donc on voit que le choc caracole toujours en tête sur cette petite simulation rigolote, ils ont fait la calcul, on voit que le choc caracole toujours en tête devant la cause. Et vous allez bien le voir sur l'éruption d'Islande qui a tellement perturbé tous les avions à l'époque. La cause de piston en dessous, ce sont les éjectats de lave. Et vous voyez l'onde de choc passer dans les nuages. Alors, il y en a plusieurs pour voir dans une minute. On a vu passer les nains. Voilà, vous voyez bien. Vous voyez que l'éruption suit derrière. Elle pousse derrière et l'onde de choc est à l'avant. Il y en a plusieurs qui vont passer, ce sont peut-être un petit peu meilleur après. Là, vous ne les entendez pas parce que c'est pris depuis à l'avion, donc suffisamment loin pour l'objectif. Elles n'ont pas terriblement net ici. Moi, je les vois sur l'écran mieux. Si là, on en a vu bien, voilà, vous l'avez vu passer, les chocs derrière, il y en a eu un peu mieux. Voilà, là, on l'a bien vu partir et on voit que la lave qui pousse derrière est largement derrière. Et elle est à des deux qui est plus faible que la vitesse de l'onde de choc. Donc, l'onde de choc va passer beaucoup plus vite devant et va se détacher petit à petit de la cause qui est derrière, du piston qui est en train de pousser pour provoquer la surpression. Là, on l'a bien, vous avez vu qui est parti, là, dans la partie blanche. Partie des nuages. Il y en a encore. Oui, il y en a une là, au fond, vous arrivez à les voir quand même. Sinon, bon, je vous passerai les films, ils ne sont pas très bons. Vous avez quand même un sacré télé pour faire là. Là, oui, là, il y en a une belle. Etc. On va pas toutes les voir. Hop. Alors, dans le cadre de choses moins géophysiques et plus astro, vous avez les supernovae. C'est l'exemple le plus simple pour nous, parce que c'est sphérique, pratique. En plus, ce sont des gaz parfaits, donc c'est génial. Avec les niveaux de dilution qu'on a, on a l'approximation des gaz parfaits rigoureusement correcte. Donc, une explosion de supernova, vous en avez ici, donc c'est aussi mieux que des centaines de millions d'étoiles, c'est extra. Et ce qui se passe, c'est que l'onde de choc va avancer dans un milieu qui est du gaz d'hydrogène très dilué avec à peu près un atome par centimètre cube et encore le bonjour. Une vitesse du son de l'ordre du kilomètre par seconde. Cet objet ici, les éjectats, ça c'est une modélisation. Les éjectats vont avancer avec des vitesses qui peuvent être de 8, 10 000 km par seconde. Donc, vous voyez, les nombres de Mach sont gigantesques. Et si vous faites le calcul de T2 sur T1 avec un nombre de Mach, je n'ai même pas poussé parce que 8 km par seconde, ce n'est pas une supernova terrible. Vous voyez que derrière le choc, vous êtes au milieu, à des dizaines de millions de degrés. Donc, vous voyez combien l'énergie du mouvement a été transformée en température derrière à des températures qui peuvent monter très très fort. Et cette, en fait, qu'est-ce que fait le choc? Il prend du gaz à l'extérieur, il lui donne brutalement la vitesse du choc, en gros c'est à peu près ça qu'il fait. Et donc il va faire ça pour les électrons et les protons qu'il peut trouver sur sa route. Mais la différence c'est que il y a 1800 de masse, de rapport de masse entre les deux. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les protons vont chauffer tout de suite, et les électrons ne chauffent pas beaucoup, parce qu'ils ont cette vitesse-là, mais ils ont une masse, donc le MV est beaucoup plus petit, beaucoup plus, 1800 fois plus faible. Donc les électrons ne vont pas chauffer comme les protons. Je vous rappelle, le chauffage, c'est la température, c'est l'énergie cinétique. Hein. Donc la masse intervient. Donc en fait, ce que vous chauffez, c'est que vous chauffez les atomes, les noyaux. Et vous ne chauffez pas les électrons libres si jamais c'est ionisé, et c'est forcément ionisé à 30 millions de mètres, c'est ionisé. Donc, vous ne chauffez pas les électrons. Ça n'est que plus tard que les électrons vont chauffer par les interactions de boulons résiduels. Vous chauffez d'abord les noyaux. Et vous voyez ici, alors un malheureusement, et vous voyez les simulations au bout de 1000 secondes, ça fait 2 millions de kilomètres. Vous voyez l'avancée des éjectats avec des densités qu'on peut calculer, et ici en log. Le vert, et les densités qui sont des 10-3 jusqu'à 10-2 grammes par centimètre cube, c'est très très dilué, donc on peut se permettre d'utiliser des approximations de gaz parfait comme on veut. Et si on a besoin, alors pas trop pour les supernovae, c'est chouette, encore que, ça va commencer maintenant, mais vous avez la possibilité de décider si vous avez besoin de rajouter de champ magnétique ou pas, en fonction du nombre de Mach de la veille, c'est-à-dire le rapport de la vitesse du choc sur la vitesse de propagation des ondes magnétiques, la vitesse de la veille que je vous donnais tout à l'heure. Donc si c'est supérieur à 10, vous êtes content, vous oubliez le champ magnétique. Si c'est inférieur à 10, vous râlez et vous êtes obligé de prendre des codes de MHD. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Je vous ai réécrit les conditions de saut avec les termes de pression magnétique, tension magnétique, les Poitiers et en plus. Mais ce qui va se passer, on peut le voir dans le cadre d'un choc normal, c'est que comme le champ magnétique, c'est de la MHD idéale, donc le champ magnétique est piégé dans la compression. Donc, mettons le cas ultra simple, vous avez un champ magnétique parallèle au choc, il va se retrouver comprimé comme ça, il va râler. La pression magnétique va évoluer. Et donc, même si le gaz a tendance à vouloir se comprimer pour les conservations d'énergie, le champ magnétique ne va pas laisser faire. Donc, au lieu d'avoir un rapport de compression de 4, vous allez descendre à 3, 2, voire jusqu'à 0, si vraiment le champ magnétique se tend, parce qu'il n'est pas dans une configuration aussi simple que ça, il va vraiment se soutenir l'onde et ne pas laisser passer la compression. Donc, pensez à une chose, il va y avoir plus conservation de U parallèle, parce que vous allez développer une nappe de courant sur le front, et vous allez surtout diminuer les taux de compression, c'est tout. Parce que le champ magnétique va résister. Moyennant quoi, on regardera la prochaine fois, parce que là, je pense que ça doit faire juste une heure, on va voir la prochaine fois sur les choses plus simples, mais comment cette onde de choc, là on l'a poussée pour l'instant, on a vu comment elle transforme les énergies et les vitesses, mais ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est vraiment voir comment elle évolue. Et là, c'est plus facile parce que ce sont des équations dimensionnelles. Donc, c'est beaucoup plus simple.